Salut, c'est Mohamed. Aujourd'hui, je vais vous raconter la journée que j'ai passée avec Sofiane à l'Art to Play, la plus grande convention nantaise, qui réunit les passionnés de tous les aspects de la pop culture. Au programme, combat de sabre laser, concours de cosplay, présentation de jeux indépendants et une multitude de stands. D'ailleurs, on a rencontré Marie Graphique, une artiste passionnée que Sofiane a pu interviewer.
Eh bien, je m'appelle Marilyn, je suis illustratrice et je suis là sur un stand dans le hall des artistes sur Art to Play. Voilà. Alors moi, je suis illustratrice et je fais des voyages au Japon. Et en fait, ce que je présente souvent, ce sont des illustrations en lien avec le Japon. Là, en l'occurrence, j'ai un livre qui s'appelle « Le voyage au pays des Mochi », qui est un livre illustré sur tous mes voyages au Japon. Donc, il est complètement illustré à la main, aquarelle, feutre, etc. Et en fait, c'est plutôt ma pratique artistique. Et là, j'ai pu les combiner en un seul volume. Étant donné que c'est un carnet de voyage, j'ai à la fois un côté réaliste et un côté un petit peu kawaii, où j'ai un petit personnage qui se balade partout dans le livre et qui nous suit tout au long de l'aventure et qu'on retrouve un petit peu à chaque page. Donc voilà, c'est assez. Alors, ça peut être très figuratif et ça peut aussi être très, très BD ou très, très illustré enfantin. Voilà.
Et le personnage, est-ce qu'il te représente toi ou un autre personnage ?
À l'origine, oui, mais j'ai vieilli depuis. Mais je l'ai gardé, c'est l'idée, le personnage idéal, quoi.
As-tu un message pour les jeunes artistes qui nous écoutent ?
Et pour les jeunes artistes ? Bah, croyez en vos rêves, allez, poussez les portes fort et généralement on y arrive. L'instant pub, eh bah, venez me voir. Je suis là toute la journée, je suis là pendant sur Art to Play. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Mon pseudo, c'est Marie Graphique.
Je me balade entre les stands quand soudain, un Teletubbies violet et au regard menaçant me fonça dessus. Ni deux, je fuis pour ma vie. Après plusieurs minutes d'une course effrénée, je me retourne vers Elise. Que c'était juste Sofiane qui s'était cosplayée en Teletubbies très moche. Pour la peine, on allait le faire dessiner.
Alors je suis Merek, le président de l'association Kawasoft. On est une association de traduction de visual novels, hein, qui sont comme des romans interactifs, de jeux vidéo et de doujinshi, qui sont basiquement des productions de mangas amateurs indépendants. Alors, les visual novels que nous avons ici, par exemple, nous avons World End Economica, qui est un visual novel de science-fiction sur la Lune, qui globalement parle, entre autres, de notions d'économie, et raconte l'histoire d'un jeune homme qui fricote avec la bourse sur la Lune et rencontre diverses péripéties. On va dire que ça ne se passe pas toujours très bien. Par exemple, nous avons ça en visual novel. Je sais aussi qu'on en a plusieurs autres. On fait vraiment de la traduction de visual novel en français, que ce soit du japonais ou de l'anglais en originel. Et à partir de ça, on a tout un tas d'histoires. On a fait de la SF, on a fait drames horreur psychologiques, on a fait de la comédie romantique, on a fait tout un tas de trucs comme ça.
Vous pouvez nous présenter l'opus un peu ?
Bien sûr. Idol Manager, c'est un jeu de gestion où on est, bah, comme le nom l'indique, un manager d'idol. Et le but du jeu, c'est de commencer d'une agence qui n'a rien, presque pas d'argent, des tout petits locaux, etc., à la plus grosse agence d'idol du Japon, avec des fonds incroyables et des concerts de fous internationaux.
Est-ce que vous avez des anecdotes sur la traduction du jeu ?
Des anecdotes sur la traduction du jeu ? Ça c'était plutôt des anecdotes sur le jeu lui-même lorsqu'on le traduisait, où on a toujours des... Alors déjà, on a toujours des petits problèmes avec la traduction, à savoir qu'il y a des termes où on n'est jamais vraiment sûr de comment arriver à traduire ça. Par exemple, je prends un exemple tout bête. Dans les groupes d'idol, il y a la notion de « senta » en japonais, qui est en fait une traduction quasi littérale de « center », le centre en anglais. Sauf que le problème, c'est que la notion de « center », c'est généralement l'idol qui est l'idole principale du groupe, qui du coup est généralement au centre, comme le nom l'indique, du groupe. Sauf que le terme de senta s'utilise tel quel. On dit cette idole est le center du groupe. Sauf qu'en français, vous pouvez pas dire telle personne est le centre du groupe. Ça fait la connotation est juste un peu bizarre. Si je dis ça, ça peut paraître un petit peu mégalo presque à dire ça, de dire oh là là, tout le groupe gravite autour de cette personne. C'est pas vraiment ça en fait l'image, c'est juste une sorte de personne principale qui porte un peu le groupe, mais pas complètement, parce que le reste des membres participent. C'est pas comme si soudainement toutes les autres étaient des backdancers, enfin des personnes dans le fond qui ne servaient à rien. Et ces notions-là, par exemple, ont été source de débats intenses en interne pour savoir comment nous pouvions traduire ce genre de choses, par exemple.
Et le joueur de Grenade a fait une vidéo sur le jeu. Comment avez-vous réagi à la vidéo ?
Alors, la dernière vidéo, je ne l'ai pas vue, malheureusement. J'ai vu ses streams dessus, par contre. Mais globalement, on était en communication bien avant même les derniers contenus que vous avez pu voir, à savoir que on voulait lui communiquer en avant-première la traduction du jeu, parce qu'on pensait qu'il allait comme ça pouvoir préparer du contenu en avance. Et effectivement, pendant la convention Japan Expo, on a vu qu'il faisait des streams. Globalement, oui, ça a été un échange très sympa avec lui. Alors, un doujinshi, on peut voir ça un peu comme un manga auto-publié amateur, en indépendant, globalement. Il y a plusieurs types de personnes qui font du doujinshi, c'est généralement au Japon dont on parle de ça. Il y a les auteurs qui parfois sont publiés auprès de vraies maisons d'édition, mais qui veulent sortir quelque chose d'eux-mêmes à côté, sans tout ce qui est imposé par la maison d'édition. Et il y a aussi des auteurs qui ne font que du doujinshi, qui eux font ça. Alors parfois c'est sur leur temps libre, c'est-à-dire parfois c'est juste, ils ont un boulot et puis ils s'amusent à faire des planches le soir et ensuite les publient. Et il y a des gens qui globalement en vivent, alors ceux-là sont assez rares, soyons honnêtes, qui ne font que du doujinshi, avec pour objectif de les sortir dans des conventions qui sont généralement dédiées à ça. Typiquement, la plupart des gens connaissent les doujinshi via ce qu'on appelle les doujinshi parodiques. C'est-à-dire, par exemple, Naruto, par exemple. J'aime beaucoup Naruto, je veux faire un, ce que nous, on appellerait un fanzine, par exemple. Eux, ils appellent ça plutôt un doujinshi parodique. Et je vais reprendre des personnages, les mettre dans une situation qui n'existe pas dans le manga, etc. etc. Et je vais le publier comme ça.
Et pouvez-vous répondre à la grande question, doujinshi est-il une sorte de hentai ou pas?
Alors ça, c'est une question qui est quand même très commune, qu'on entend très très fréquemment. La réponse est, il y en a, et il y a, mais il n'y a pas que ça. La plupart des gens ont cette image que les doujinshi sont hentai, R18, pour adultes, etc. Et c'est une vision qui est souvent faussée par le fait que ce qui est traduit, sur Internet notamment, c'est généralement ce contenu-là. Parce que c'est le contenu qui est demandé par, à l'international. C'est tout bêtement une histoire d'offre et de demande, hein, je vais pas le cacher. Maintenant, si jamais vous avez l'occasion d'aller au Japon, et notamment au Comiket, vous vous rendrez compte que globalement, on va dire, c'est presque 50-50. C'est-à-dire qu'il y a au moins la moitié de la production qui va être du doujinshi tout public. Pour moi, une des grandes forces du doujinshi, c'est que effectivement, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai déjà vu des gens faire des doujinshi sur les trains. Des gens qui font des doujinshi sur les avions, sur l'armée. J'ai vu des gens qui faisaient des doujinshi sur leur voyage. Et c'est juste très sympa et tout, mais ça n'a rien du tout de contenu pour adultes. Ça n'a vraiment rien à voir. Voilà.
Mais merci pour l'interview.
Hein. De rien.
Après avoir interviewé Kawasoft, nous sommes allés manger. Au menu, saucisses entourées de fromage et de panure trempées dans de la friture et ramen à la japonaise. C'était très bon, mais un peu cher. Nous avons ensuite décidé d'aller voir les cosplayers et les cosplayeuses.
Du coup, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Donc, moi, c'est Softs Cosplay sur Instagram et TikTok, mais je m'appelle Nila, en vrai.
Moi, c'est Tsuki Cosplay et je donne pas mon nom quand je suis en cosplay, voilà.
Et quel perso vous faites en cosplay?
Donc là, moi, je suis un Junko Enoshima de Danganronpa 1, 2 et un peu 3. Et voilà, avec mon marteau et mon petit Monokuma chéri.
Et moi, je suis en Lady Ciel de Black Butler.
Et pourquoi as-tu choisi ce cosplay et pouvez-vous le présenter?
Donc moi, c'est l'un des meilleurs cosplays que j'ai et il a vraiment une valeur sentimentale à mes yeux. Et je le prends aussi pour le marteau qui est l'une de mes pépites que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est le cosplay que j'amène tous les ans à Artplay.
Moi, c'est parce que Black Butler, c'est mon animé préféré. Et en fait, j'adore les grandes robes style des 19e siècle et tout ça. Et j'ai beaucoup percé avec, du coup, beaucoup de personnes me connaissent avec et ça me fait plaisir de pouvoir voir des abonnés avec.
Comment vous êtes mis au cosplay ?
Moi, alors c'était pour un déguisement d'Halloween de base, donc j'ai fait Harley Quinn. Et puis quand je me suis vraiment considérée cosplayeuse, c'est quand j'ai ressorti ce cosplay pour un concours cosplay, du coup.
Et moi, c'est après avoir été en fait à Artplay.
Avez-vous des anecdotes ?
Bah, à part le fait qu'à peine 5 minutes rentrée, mon truc a lâché. Donc la lumière s'est disparu, alors merci qu'il y avait un stand de craft pour réparer ses cosplays, mais c'est le seul truc qui me vient à l'esprit.
Ah sinon il y a aussi des abonnés qui me reconnaissent et ça ferait vraiment plaisir, genre vraiment c'est adorable.
Eh ben merci beaucoup.
Au détour d'une allée, nous avons croisé le terrible Commodore Edward Nock, qui a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions.
Pourrais-tu te présenter d'abord ?
Tout à fait, je suis, nom de scène, le Commodore Edward Nock.
Je suis un pirate, un officier pirate, mon costume étant tout pareil. Dans la réalité, je suis un civil tout à fait lambda et parfaitement banal, et je ne donnerai pas mon prénom pour des raisons évidentes.
Et pourrais-tu nous présenter ton cosplay ?
Alors, c'est pas un cosplay à proprement parler, puisque c'est un personnage plutôt original. Le chapeau et le manteau que je porte est celui, pour les auditeurs qui le reconnaîtront, celui de Tig dans Pirates des Caraïbes 3, le père de Sparrow. Le reste du costume, les 4 pistolets que je porte et tous les armements sont de la création faite main originale, parce que ce n'est pas un cosplay, je triche un peu. À côté, je fais aussi de la reconstitution et de l'évocation à thématique pirate dans des festivals, notamment en Côte d'Armor à Binic et à Grande Pirate, ou par exemple à Rennes, ou dans le sud, ou à la Dune du Pilat. Donc je triche un peu. Quand je me pointe en convention, c'est pas réellement du cosplay, mais ça me permet d'appliquer aussi le personnage et de toucher un public cible différent de celui habituel. Tout simplement.
Et quel est ton rapport avec ce personnage ?
C'est un personnage que j'ai créé il y a 8 ans, avec une base de costume tout à fait normale. Et il a évolué non pas en fonction de mes goûts, mais en fonction de la personnalité que je développais avec. Alors attention, je ne suis pas... on n'est pas sur un dédoublement de personnalité. Mais ce personnage colle à mon caractère et me permet, moi, de me sentir bien dedans, me sentir libre, tout en ayant quand même une part de théâtre. À éviter de... de paraître trop ou peu obséquieux avec les gens, de pouvoir moi avoir ma zone de confort et de sécurité, mais de pouvoir faire rire et rêver tout en ayant ce caractère poli et ce contraste entre le pirate qui gueule et qui insulte et le pirate qui est gentil et avenant avec les enfants ou avec les gens qui prennent des photos. Mon personnage a évolué avec moi et il fait une partie de moi quand je mets la perruque ou quand je mets le chapeau.
Et pourrais-tu nous présenter ce personnage ?
Alors, le commandant Edward James Thomas Nock a commencé à évoluer en fait dans les Caraïbes d'une manière tout à fait standard, c'est-à-dire que c'était un matelot qui faisait un petit peu la pêche à la truite, qui venait un petit peu coller son sable entre les côtes des clampins. Bon, il a un petit peu tourné avec, comment il s'appelle, monsieur Henry Morgan, que vous connaîtrez, qui a notamment fait la prise de Panama en 1692 et qui a fini sur des bouteilles de rhum. Et après avoir tourné avec lui, ils ont discuté un petit peu dans la cabine, il y a eu un petit rassemblement RH, on a discuté avec les managers, oui, bon, il va falloir mettre fin à ton contrat parce que ton CDD il est mignon, mais on dégage. Et donc du coup, le commandant s'est retrouvé en tôle. Et qu'est-ce qu'il a fait en tôle ? Ben, comme c'est pas un fumier, il a discuté avec les gardiens, vu qu'il est quand même vachement sympa, il a papoté avec le directeur, on lui a offilé des cigares, on faisait rentrer de la thune, machin. Un jour, il a dit, ben, j'en ai marre, je me casse. D'accord ? Il en a eu marre, il s'est cassé, il est retourné dehors, et puis, comme il était à la vie libre et civile, il a décidé non plus de s'embarquer sur un bateau, mais de se mettre dans un bureau, hein, devant un PC, un Macintosh et puis un Airbook, et puis de gérer maintenant les armadas et de gérer les autres équipages de pirates qui lui semblaient parfaitement inférieurs. Parce que c'est un homme d'une supériorité hiérarchique et stratégique énorme, une capacité au combat démentielle. Et donc du coup, on se retrouve face à un pirate qui, non content d'avoir de l'expérience au combat, a également celle de gueuler gratuitement sur les gens. Voilà, et là c'est le silence, tout le monde m'écoute, on me prend en photo, on me regarde, il y en a qui sont moches. Oui, c'est à toi que je parle, et c'est parfaitement gratuit. Voilà qui est le personnage, un fiefé gredin qui n'hésite pas à insulter tout le monde juste pour le fait de s'amuser. Comme j'ai dit, c'était pas véritablement du cosplay, mais je suis rentré dans ce monde-là, j'ai eu un premier contact avec le cosplay quand j'ai travaillé avec une entreprise qui s'appelle la Taverne Maudite. C'est des exposants en convention manga, pop culture, qui proposent une thématique d'animation pirate. Je dois reconnaître que dans les conventions, j'ai changé beaucoup d'avis, j'avais beaucoup d'a priori avant. Pour moi, le cosplay, c'était les geeks boutonneux qui passaient leur vie devant les mangas. Et je me suis rappelé que quand j'étais gamin, mais moi aussi j'aimais bien Naruto, je regardais Ghost in the Shell, Akira, tout ça, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de mal aussi à afficher cette culture et à assumer aussi. Moi, à l'époque, on se faisait boulaille au lycée parce qu'on aimait regarder Death Note. Maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus libre. On a des conventions avec des gens de tous âges, avec des soixantenaires, des cinquantenaires, on a des gens de 20 ans, on a des enfants. On a une pluralité, une diversité au niveau des gens qui viennent ici, qui est merveilleuse. Et si le pirate peut venir et faire rêver les gamins, faire rêver les autres et faire des compliments, participer, donner des conseils, en recevoir aussi, là on trouve réellement l'intérêt de la convention cosplay. C'est vraiment mes premiers pas dans le cosplay en ce moment et je trouve ça merveilleux. Oui, on me met beaucoup de mains au cul. Suivez-moi sur les réseaux sociaux si vous voulez, le Commodore _ Knock. Vous verrez donc sur ces réseaux les démonstrations de tir à la poudre, au canon, des démonstrations d'escrime. Et vous pourrez suivre l'évolution et la création de plusieurs festivals de pirates en France.
Après avoir parlé avec les cosplayers, nous avons entendu de l'agitation. On savait pas ce que c'était, mais on était prêt à le découvrir.
Ah,
Qu'est-ce qu'ils poursuivent? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils poursuivent? Ouais, non, ils sont juste en train de courir, on est d'accord?
Ouais, on est d'accord.
Ouais, merci pour ton intervention.
Parce qu'en fait, ils s'amusent. Et du coup, ce qui implique de faire n'importe quoi.
Excuse-moi, tu sais qu'est-ce qui se passe?
C'est le bordel en gros, mais c'est sympa.
Merci pour ton intervention.
Ouf, on a réussi à s'enfuir. C'était chaud. Bon, on fait quoi maintenant? Tiens, c'est une table de JDR que je vois là. Et si on est allé?
Est-ce que tu peux d'abord te présenter et présenter ce que tu fais?
Alors aujourd'hui, je m'appelle Bronx Forge Plume. Je suis maître du jeu pour l'association Tilk à Châteaubriand. On est dans le nord du département, dans le 44. On fait du jeu de rôle, du jeu de société. On a à peu près tous les week-ends des gens qui jouent avec nos parties. Et on espère qu'aujourd'hui avoir plein de monde pour faire découvrir le jeu de société et surtout le jeu de rôle pour nous aujourd'hui.
Comment tu t'es passionné pour le jeu de rôle?
Alors moi tout simplement j'aime raconter des histoires. Dans le jeu de rôle on est un petit peu les descendants des gens qui racontaient des histoires auprès des feux. Et pour moi c'est un peu la même chose. Les dés c'est juste une mécanique côté jeu de société. Mais ça reste quelque chose, une rencontre avec des gens, entre amis. C'est vraiment l'important, c'est d'être ensemble. Et le jeu de rôle est un prétexte plus qu'autre chose.
Quelle est l'importance des conventions pour toi comme l'Art to Play?
Alors, c'est plus pour notre association. Nous, le but, c'est de faire vivre l'association, de la faire connaître. Et pour la faire vivre et la faire connaître, eh ben, faut aller dans ce genre de conventions qui sont proches de chez nous. Pour que bah, plus on est de fous, plus on rit. Et on a besoin de beaucoup de fous pour pouvoir jouer. Donc, il faut qu'on soit connu pour que les gens viennent, pour qu'on puisse passer tous des bons moments. Ensemble. Et c'est le but de l'Art to Play, c'est connaître des gens et faire passer des bons moments.
Bien, je te remercie.
Ben, merci à toi. Merci d'avoir joué et merci de ne pas être mort pendant cette partie.
Et c'est comme ça que notre aventure s'achève. Ce week-end haut en couleur fut chargé de formidables rencontres avec des artistes, des rôlistes, des cosplayers et bien plus de personnes fantastiques encore. Que je vous invite chaleureusement à venir découvrir à la prochaine édition qui se déroulera le 18 et 19 novembre au Parc des Expositions de Nantes. Je tiens à remercier les intervenants ayant accepté de donner un peu de leur temps pour répondre à nos questions, ainsi que les organisateurs de l'Art to Play pour nous avoir permis de faire ce podcast. Chers auditeurs, j'espère que cette aventure vous a plu. Et sur ce, je vous laisse. Il y a Starry Sky en concert.